Chapitre 35. Quand il quitte la maison bleue le lendemain matin, il fait encore nuit. Les enfants ont les yeux mi-clos et ne parlent pas. Lucie retient son souffle en tendant l'argent pour payer le train pour Paris à l'agent au guichet, une femme qui la regarde comme si elle connaissait ses secrets les plus intimes. Son cœur bat plus fort quand il monte dans le train et il s'emballe quand le contrôleur lui demande leur billet. Dès que le train ralentit, elle s'attend à voir les flashs bleus des sirènes de police et des képis de gendarmes. À Paris, elle trouve un café calme dans la rue de la gare et s'y installe avec les enfants en attendant le train pour Cherbourg. La peur la rattrape, la pétrifie à chaque étape. À midi, alors qu'il grimpe dans le train suivant, elle s'imagine Joy arriver chez Michael pour commencer sa semaine de travail. Elle sent l'adrénaline déferler en elle si puissamment que son cœur pourrait exploser. Mentalement, elle parcourt toute la maison de son ex, à la recherche de ce qu'elle aurait oublié, de ce qui mènerait Joy directement à la cave. Pourtant, elle en est sûre. Rien ne lui a échappé. Elle n'a laissé aucune trace. Elle s'est donné un peu d'avance, au moins un jour, si ce n'est 3 ou 4. Et quand même les policiers découvriraient le corps, qu'est-ce que Joy pourrait bien dire qui conduirait à cette gentille Lucie, à la mère du fils de Michael? Elle leur parlerait probablement des relations louches qu'entretenait son patron, de ces hommes à la mine patibulaire qui sonnaient parfois pour parler affaires. Elle les guiderait dans une toute autre direction, et quand ils finiraient par se rendre compte que c'est une fausse piste, Lucie serait déjà loin. Quand le train arrive à Cherbourg, les battements de son cœur reprennent un rythme normal, et elle réussit à manger le croissant qu'elle s'est acheté à Paris. À la station de taxi, ils montent dans une vieille scénique et Lucie demande au chauffeur de les emmener à Dielette. Le chien s'assoit sur ses genoux et pose la tête contre la vitre à moitié ouverte. Il est tard. Les enfants s'endorment. Dielette est un petit port situé entre des collines verdoyantes et la Manche. Le petit ferry qui va à Guernesey transporte des vacanciers britanniques, essentiellement des familles. Lucie tient fermement les passeports dans ses mains moites. Leurs documents sont français, mais elle est anglaise. Ses deux enfants ont des noms différents du sien. Stella n'a pas la même couleur de peau qu'elle. Ils portent des sacs à dos crasseux et sont si fatigués qu'ils ont l'air malades. Et leurs papiers sont faux. Lucie est convaincue qu'on va les mettre à l'écart dans une petite pièce pour leur poser des questions. Elle a prévu ce voyage long et tortueux afin de dissimuler au mieux leur itinéraire. Mais en tendant les passeports à l'agent des douanes avant de monter dans le ferry, son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il peut l'entendre. Il tourne les pages, regarde les photos, puis les individus qui lui font face, rend les passeports et leur fait signe d'avancer. Ça y est, ils sont en mer, dans l'écume gris-bleu bouillonnante de la Manche, la France derrière eux. Elle s'assoit au fond du bateau, et prend Stella sur ses genoux, afin qu'elle voie une dernière fois le pays de sa naissance, le seul qu'elle ait jamais connu, disparaître à l'horizon.
« Au revoir, la France !»
murmure Stella avec un geste de la main.
« Au revoir !»